Chapitre 4. Le chapelain de l'évêque. De quelle extraction était M. Slope? C'est ce que je ne suis guère en état de dire. On m'affirmait pourtant qu'il descendait directement de l'éminent médecin qui assista à la naissance de M. Tristram Shandy, et que, jeune encore, il ajouta à son nom une euphonique, ainsi que l'on ferme en lui d'autres hommes remarquables. Quoi qu'il en soit, il a étudié à Cambridge, et avec succès car il fut à son temps maître S.R. et fut le répétiteur d'un certain nombre d'élèves de l'université. Ensuite, il devint, à Londres, prédicateur dans une église nouvelle, construite sur les confins de Baker Street. Il avait cette position quand la conformité de ses idées en matière de religion le recommanda à Mrs. Proudie. Il en était résulté entre eux des relations intimes et confidentielles. Il se trouvait ainsi jeté dans la familiarité des Mrs. Proudie, et quoi de plus naturel qu'il naquit bientôt un sentiment plus tendre que la simple amitié. Il y avait eu de l'amour entre lui et Olivia, le fruit le plus mûr de l'hymen du docteur et de Mrs. Proudie, mais jusqu'alors, il n'était point arrivé à une entente qui assurât leur bonheur réciproque. La vérité est que M. Slope, après avoir fait une déclaration, l'avait retiré en apprenant qu'Olivia n'avait d'autre dot que ses vertus, et l'on comprendra aisément que Miss Proudie, ainsi édifiée sur la sincérité des sentiments de M. Slope, fut peu disposée à accepter de lui de nouvelles démonstrations d'affection. En effet, la nomination du docteur Proudie à l'évêché de Barchester avait modifié les vues de M. Slope. Un évêque a beau être pauvre, il peut beaucoup pour un gendre, et M. Slope se prit à regretter de n'avoir pas été plus désintéressé. Il recommença donc son siège, mais respectueusement, à distance. Olivia était fière. Elle avait dans les veines le sang de deux nobles pères, et qui plus est, elle avait un autre amour au cœur. M. Slope soupira donc en vain, et bientôt nos anciens amoureux se portèrent l'un à l'autre une haine des plus vigoureuses. Il semblera peut-être étrange qu'un incident de ce genre n'eût diminué en rien l'amitié de Mrs. Proudie pour le jeune ecclésiastique, mais pour dire le vrai, elle n'en avait pas eu connaissance. Quoique M. Slope lui fût très agréable, elle n'avait jamais eu la pensée qu'il pût l'être à une de ses filles. Considérant leur naissance et leurs avantages sociaux, elle attendait pour elle de tout autre mariage. Ni le soupirant, ni l'objet de ses feux n'avaient jugé nécessaire de l'instruire. Les deux sœurs d'Olivia, tous les domestiques, tous les voisins avaient été au courant de l'affaire, Mrs. Proudie seule l'avait tout ignoré. Bientôt, M. Slope se consola par la réflexion que, dans sa nouvelle position de chapelain, il pourrait sans doute se faire octroyer les avantages dont l'évêque disposait sans enchaîner sa vie à celle de la fille de l'évêque. Et il se trouva capable de supporter les tortures d'un amour rejeté. Assis en chemin de fer devant l'évêque et Mrs. Proudie, qui faisaient leur premier voyage à Barchester, il se traça le plan de sa vie future. Il connaissait les qualités de son chef, mais il savait aussi quels étaient les points faibles de son caractère. Il savait vers quelle haute sphère l'activité confiante du docteur allait prendre un essor hardi, et il conjectura justement que la vie publique flatterait les goûts du grand homme plus que les petits détails de l'administration diocésaine. Ce serait donc lui-même, M. Slope, qui serait en réalité évêque de Barchester. Telle était sa résolution, et pour rendre justice à M. Slope, il avait assez de courage et de confiance en lui-même pour ne point faiblir dans son entreprise. Il savait qu'il aurait à lutter, car cette autorité qu'il ambitionnait lui serait disputée. Mrs. Proudie voudrait elle aussi être évêque de Barchester. M. Slope néanmoins se flatta de contreminer les travaux d'approche de la dame. Elle serait souvent à Londres, tandis que lui, il ne quitterait pas le terrain. Elle demeurerait nécessairement dans l'ignorance de bien des choses, tandis qu'il connaîtrait toutes les affaires du diocèse. Tout d'abord, sans doute, il devrait la flatter, la cajoler, lui céder même dans certaines questions. Mais il ne doutait pas du succès final. Si tous les autres moyens échouaient, il se liguerait avec l'évêque contre sa femme. Il ferait honte à son timide allié de sa faiblesse conjugale. Il trancherait dans sa racine le despotisme de l'épouse et affranchirait l'époux. Telles étaient ses pensées tandis qu'il considérait le couple endormi en face de lui, et M. Slope n'est pas homme à se fatiguer l'esprit pour rien. C'est un homme habile et persévérant. Il est capable de descendre jusqu'à la flatterie, jusqu'à la flatterie basse s'il le faut. Mais il saurait aussi se donner des airs de tyran, et ce n'est pas le désir qui lui en manque. Il n'y a en lui rien de supérieur, mais ses qualités telles qu'elles sont, il les connaît, et sait en faire usage. Il a une certaine éloquence de prédicateur, qui n'arrive point à convaincre les hommes, mais qui est toute puissante sur l'esprit du sexe sensible. Dans ses sermons, il emploie volontiers les objurgations menaçantes, excite dans les âmes timides de ses auditrices de vives terreurs. Il laisse cette impression que tout le genre humain, les femmes surtout, est sous le coup des plus grands dangers. Il excepte celles qui suivent régulièrement ses lectures du soir dans l'église de Baker Street. Son regard, le ton de sa parole sont d'une extrême sévérité. On ne peut s'empêcher de croire qu'il considère le plus grand nombre des humains comme indigne de ses pensées et des soins de son ministère. Dans la rue, on peut lire sur son visage l'horreur que lui fait éprouver la perversité du monde. Son œil semble toujours prêt à lancer l'anathème. M. Slope est élancé et bien fait. Il a les mains et les pieds un peu forts. Il tient cela de sa famille, mais en proportion avec sa large poitrine et ses larges épaules. En somme, il est bien. Pourtant, son extérieur ne prévient pas absolument en sa faveur. Ses cheveux sont plats et roussâtres, toujours divisés avec une admirable précision en trois mèches aplaties par la brosse et la pommade. Deux s'abaissent vers les côtés de la figure et y sont collées. La troisième, sur le sommet de la tête, forme avec elle un angle droit. Il ne porte pas de favoris et est toujours scrupuleusement rasé. Sa figure est à peu près de la même couleur que ses cheveux, peut-être d'un rouge plus accentué. Son front est large et haut, mais carré et luisant. Il a la bouche grande, mais les lèvres minces et pâles, et ses gros yeux à fleur de tête n'inspirent pas la moindre confiance. Son nez rachètera le reste, car il est droit et bien fait, mais j'aimerais mieux qu'il n'eût pas une apparence spongieuse ou poreuse et ne semble pas avoir été habilement taillé dans un morceau de liège coloré en rouge. Ce serait pour moi un supplice de presser les mains de M. Slope. De sa personne sort continuellement une sueur froide et gluante qui s'amasse en gouttelettes sur mon front. Non, sa plus amicale poignée de main ne me serait pas agréable. Tel est M. Slope. Tel est l'homme qui vient de tomber soudain au milieu du parvis de Barchester et est destiné à y occuper la situation qui a été jusqu'alors celle du fils du défunt évêque. Songez quel confrère va être M. Slope pour ses dignitaires grassement pourvus, pour ses prêtres d'esprit et de manière distinguée, pour ses heureux chanoines bien traités et bien nourris qui ont vécu jusqu'alors à Barchester sous l'aile paternelle du docteur Grantly. Mais ce n'est pas pour leur amener un nouveau confrère que M. Slope est sur la route de Barchester avec son évêque et Mrs. Proudie. Il veut être, sinon leur maître, du moins le premier d'entre eux. Il veut serrer ou desserrer à son gré les cordons de la bourse du diocèse et tenir à ses pieds le troupeau obéissant de ses frères appauvris et affamés. Le docteur Grantly s'était peu occupé de la vie extérieure de ceux qui étaient dans sa dépendance. Je ne veux pas dire qu'il ferma les yeux sur les cas d'inconduite dans son clergé, d'immoralité dans sa paroisse, ou sur les péchés d'omission dans sa famille, mais il n'aimait pas à les relever quand cela n'était pas absolument nécessaire. Il n'était pas inquisiteur. Tant que ceux qui l'entouraient ne penchaient pas vers une hérésie, tant qu'il reconnaissait pleinement l'autorité de notre mère la Sainte Église, il croyait que cette mère devait être miséricordieuse et pleine d'amour, portée à l'indulgence et lente à châtier. Il appréciait les bonnes choses de ce bas monde et ne s'en cachait pas. Il avait quelque dédain pour le recteur qui voyait du mal dans un bon dîner et regardait comme dangereux une bouteille de Bordeaux. Aussi les bons dîners arrosés de bon Bordeaux n'étaient-ils pas rares dans le diocèse. Il aimait à donner des prescriptions auxquelles il voulait qu'on se soumît, mais il s'efforçait d'en mesurer la sévérité à la faiblesse humaine et de ne point les rendre insupportables à des hommes du monde. Il avait gouverné son clergé pendant de longues années et comme il avait su maintenir son autorité sans devenir impopulaire, il est à croire qu'il l'avait exercée avec sagesse. Des principes qui dirigeront la conduite de M. Slope, nous ne pouvons pas dire grand-chose. La période importante de sa carrière ne fait que s'ouvrir. Mais on peut prévoir que ses goûts seront tout autres que ceux de l'archidiacre. Il considère comme son devoir de connaître toute la vie privée du troupeau confié à ses soins. Du pauvre, il exige une obéissance absolue aux règles de conduite qu'il a établies, et en cas de désobéissance, il fulmine des anathèmes. Avec les riches, l'expérience lui a appris qu'il faut agir autrement. Les hommes qui occupent une haute position sociale s'inquiètent fort peu des anathèmes. Il est généralement en assez mauvais termes avec eux. Ce sont des pécheurs endurcis sur lesquels il fait tomber en vain la manne de sa parole. Mais sur les femmes, vieilles ou jeunes, fortes ou délicates, dévotes ou mondaines, il est, du moins le croit-il, tout-puissant. Il sait reprendre avec des paroles si flatteuses, condamner d'une voix si caressante, qu'il n'est pas de cœur de femme qui puisse lui résister. Aussi est-il, dans bien des maisons, un convive admiré et choyé. Les maris ne peuvent se dispenser de le recevoir à cause de leur femme, et quand une fois on l'a admis, il n'est pas facile de se débarrasser de lui. Pourtant, il a un extérieur patelin, quelque chose de visqueux qui le rend désagréable à ceux qui n'apprécient pas en lui le directeur de conscience. Bref, il n'est pas homme à conquérir tout d'abord la popularité dans le monde clérical et dans la société laïque de Barchester.